Audiolib présente Les Orangers de Versailles, tome 3, pour le cœur du roi, d'Annie Pietri, lu par Aurélia Poirier. Chapitre 1. Dimanche 7 février 1819. Versailles ! Quelle idée d'avoir construit sur cette terre un palais aussi magnifique ! Vous ne trouvez pas, père ? Le vent souffle plus fort dans ce vallon que sur les falaises d'Étretat. Il me semble que Louis XIII a été mal inspiré d'établir ici sa demeure. Philippe-Henri Schunk s'arrêta pour remonter le col de sa redingote. Puis il se tourna vers sa fille.
Amélie, je n'ose y croire. Vous venez d'avoir 16 ans et vous n'avez pas plus de mémoire qu'un petit oiseau. Ne vous ai-je pas enseigné que Louis XIII n'avait bâti sur cette terre qu'un modeste pavillon de chasse ? C'était il y a presque 200 ans. Plus tard, son fils Louis XIV a donné à ce lieu ses lettres de noblesse. Il en a fait sa résidence et le siège du gouvernement du royaume. Sans lui, la France ne serait pas dépositaire de l'immense chef-d'œuvre qu'est ce château, et le parc où nous marchons aujourd'hui ne serait encore que marécage putride.
Je vous taquinais ? Répliqua-t-elle dans un sourire. « Je sais parfaitement tout cela, mon cher papa. » Amélie frissonna et enroula son châle de cachemire bleu autour de sa gorge. Il faisait un froid si pénétrant que son manteau de mérinos doublé de soie ne suffisait pas à la réchauffer. Elle promena autour d'elle un regard affligé.
« Certes, il n'y a plus ni marée ni moustique, » reprit-elle. « Mais que dites-vous de la vision d'Apocalypse qui s'offre à nous ? Pour moi, ces jardins ressemblent à un champ de bataille. »
Les sourcils froncés, Schunk assura son calicot qu'une bourrasque avait tenté de lui arracher.
« Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, je vous prie. Vous ignorez tout de la guerre. Il n'y a ici que statues de marbre, arbres et treillages couchés sur le sol. Par bonheur, je n'y vois aucun soldat. »
« Avez-vous déjà connu une tempête aussi violente que celle-ci ? »
Ma foi, depuis 47 ans que je suis de ce monde, je n'ai jamais rien vécu de semblable.
« Venez !» lança Amélie. « Ne restons pas là. Promenons-nous plutôt. »
Tous ces arbres déracinés ont remué la terre si profondément que cela a dû libérer les esprits de la forêt. Et quelque chose me dit qu'une jolie fée rousse, entourée de lutins facétieux, nous attend assise au bord d'une fontaine. Nous les surprendrons au détour d'un sentier et ils nous diront leurs secrets.
Amélie tournoya sur elle-même avant d'éclater de rire. Son père soupira et leva les yeux au ciel.
« J'ai dû me tromper d'une décennie, mon enfant. En réalité, vous n'avez que 6 ans, » dit-il en souriant.
D'un air attendri, il regarda sa fille quelques instants. Elle était de plus en plus jolie. Comme elle avait grandi, si vite, le temps avait filé. Elle ressemblait de plus en plus à sa mère, plutôt grande, fine, gracieuse, elle avait les yeux gris-verts, les cheveux blonds cendrés et un sourire désarmant. Philippe-Henri ne savait lui résister et, même s'il lui arrivait de se fâcher contre elle, il lui pardonnait bien volontiers toutes ses excentricités. Main dans la main, ils quittèrent la tête du grand canal et contournèrent le bassin d'Apollon pour se diriger vers le bosquet de la Colonnade. 3 semaines auparavant, dans la nuit noire, aux premières heures du dimanche 17 janvier, la tempête avait fait rage sur le nord de la France. Une tempête comme on n'en voit qu'une fois par siècle, aussi virulente qu'inattendue, presque un cyclone. Dans un sifflement diabolique, le vent avait soufflé avec une force incroyable. Les pluies diluviennes avaient noyé le paysage. Des torrents de boue s'étaient formés, entraînant tout sur leur passage et provoquant des affaissements de terrain. Les dégâts étaient considérables, en ville comme dans les campagnes. Habitations en ruine, récoltes perdues, bétail tué ou errant dans la nature, routes coupées par des arbres brisés ou arrachés, carrosses et calèches retournées, chevaux estropiés, sans parler de nombreuses victimes écrasées pendant leur sommeil par l'effondrement du toit de leur logis. Les hôpitaux, les églises et les monastères qui accueillaient les sinistrés se trouvaient surchargés au point qu'ils ne pouvaient plus héberger une âme supplémentaire. Face à l'urgence, le roi Louis XVIII puisait dans sa cassette pour acheter des vivres qui étaient ensuite répartis dans les couvents.